Julie Windisch, bonjour.
Bonjour.
Nous avons abordé dans l'éclairage précédent la question des sciences humaines. Aujourd'hui, nous allons rester sur le même sujet en abordant la question du rôle des médias dans ces sciences humaines. Alors, Julie Windisch, selon vous, quel est l'impact de ces médias dans ce domaine?
Alors, ce qui est frappant justement, c'est la relation souvent très directe entre les médias et les sciences humaines et sociales. En réalité, ça va plus loin, et c'est cela qu'il faut souligner, c'est que les médias sont attirés, pourrait-on dire, par les thèses, les auteurs qui ont les positions les plus radicales, dans un sens déconstructeur de la société, donc une espèce de gauchisme radical. Plus un auteur est, si vous voulez, radical et dans son gauchisme, plus les médias s'y intéressent. Autrement dit, c'est laisser de côté, évidemment, certaines grandes œuvres dans la mesure où elles existent. Alors, vous me direz, mais un exemple, s'il vous plaît. Alors, il y en a justement beaucoup, mais il y a un cas extrême, et je crois qu'il est intéressant d'en dire un mot. Tout le monde, bien sûr, dit que le rôle des sciences humaines et sociales est d'être critique, n'est-ce pas? On dit, il faut dans la société de l'esprit critique. Mais encore une fois, la critique est une activité exigeante, suppose d'être cultivée, d'arriver à analyser un phénomène sous des dimensions multiples et non pas, bien sûr, simplement une espèce de destruction radicale d'un phénomène, une moquerie généralisée. Alors, vous avez un auteur français, Augien, qui a écrit un livre, Mon dîner chez les cannibales, et qui, lui, a même une chronique dans Libération. Vous me direz, c'est pas étonnant, un journal gauchiste, 68 ans attardé, qui de temps en temps doit établir quelques nuances pour continuer à être lu. Et alors, justement, plus ce personnage est un bel exemple. Plus il est radical dans ses thèses, plus on le trouve sur les plateaux de télévision. Ça pose une image, ça pose une question grave pour l'image des sciences humaines et sociales, qui, par définition, sont déjà critiquées, mal admises. Ça renforce encore cette image négative et, par conséquent, bien sûr, le fait que elles sont rejetées, mais peut-être aussi le fait, et c'est là la gravité du problème, qu'elles sont en décalage total avec les réalités. Alors, vous voyez, cet auteur est pour il nous le dit, un minimalisme moral, n'est-ce pas? Il s'agit, en gros, c'est un relativisme total, une critique totale de nos valeurs, de nos croyances, tout est relatif, tout doit être déconstruit, et évidemment, ça donne des idées délirantes. Pour prendre deux, trois exemples très concrets, il nous dit, à part le fait que tout est permis, que l'essentiel consiste à ne pas nuire aux autres, et que donc, si un individu estime qu'il veut être mangé par son ami, qu'il veut se détruire par la drogue, qu'il veut coucher avec sa mère, qu'il veut tuer son père à la demande de ce dernier, que tout cela, est parfaitement admissible dans la mesure où ça nuit pas aux autres. Vous voyez déjà certaines contradictions. Évidemment que le pire pour cet auteur, c'est d'être conservateur. L'inceste, évidemment, est admis. Même la tolérance est mal vue puisque c'est encore se situer par rapport à nos valeurs et non pas par rapport à tout ce qui est possible. Donc, évidemment que dans le domaine de l'immigration, vous le devinez, c'est l'apologie de tous les micro-peuples de substitution, comme disent certains. L'assimilation, c'est une horreur. Les immigrés sont considérés de manière positive. Et évidemment, il faut ouvrir les frontières toutes grandes. C'est d'ailleurs aussi ce que disent bien des spécialistes prétendus de l'immigration. Vous voyez qu'il y a aussi la haine, bien sûr, ça vient toujours et automatiquement, la haine de soi, de son propre peuple, n'est-ce pas, le national populaire, moyen, l'individu de nos sociétés, couche moyenne, couche populaire, c'est ce qui peut exister de pire. Et là aussi, quand on insiste dans ce sens, vous imaginez que ça crée des réactions, mais des réactions émotives, affectives, politiques chez les gens qui se sentent insultés. Eh bien, il n'en a rien à faire. Voyez à quel point on peut être coupé du réel en prétendant l'analyser. Alors, bien sûr, on pourrait dire, voilà l'exemple d'un personnage délirant, encore une fois, constamment invité dans les médias, même comme expert par les plus hautes autorités politiques sur certains sujets. On voit donc que cela ne sert en rien l'image des sciences sociales et malheureusement, on ne trouve plus dans les sciences sociales et humaines des visions, des analyses plus conservatrices, car une société, pour subsister, a toujours besoin est fondée sur un certain nombre d'éléments essentiels qu'on ne veut plus admettre quand on ne fait plus que déconstruire. Et cela, évidemment, désécurise aussi complètement des secteurs entiers de la population. Eh bien, je pense que ce n'est pas ça, le but des sciences sociales et humaines. Il ne s'agit pas d'interdire la vraie critique, mais voyez-vous, ce qui se passe à ce moment-là, et ce qui manque certainement dans les sciences humaines et sociales, ce sont des personnages qui sont d'abord cultivés, qui sont capables d'approcher un problème de manière complexe et multiple, et un phénomène nouveau qui devrait faire en sorte que les sciences sociales et humaines s'interrogent, c'est que les prises de position aujourd'hui, les analyses les plus intéressantes sur les phénomènes qui préoccupent le plus la population, par exemple l'immigration, par exemple l'islam, eh bien ces problèmes ne sont plus traités par les sciences humaines et sociales, si ce n'est pour aller dans le sens d'un laxisme total. On pourrait imaginer, même à titre d'hypothèse, que des gens de sciences humaines et sociales revoient complètement les théories de l'immigration et se demandent si le regroupement familial ne devrait pas être à nouveau totalement limité, si l'immigration ne devrait pas être momentanée, ponctuelle, quelqu'un viendrait travailler pour 2, 3 ans dans un pays, sans que cela entraîne tous les phénomènes lorsqu'il y a des familles nombreuses, voire la polygamie. Donc, des interrogations courageuses et fondamentales me semblent absolument indispensables. Sinon, il y a décalage total avec la réalité et les effets pervers, les effets négatifs de ces phénomènes qui deviennent grandissants vont être encore plus importants. Prenons l'exemple de l'islam. Pourquoi personne n'imagine jamais, par exemple, tout simplement la thèse de la réciprocité? Eh bien voilà, si les chrétiens dans un pays musulman n'ont pas le droit à des églises, pourquoi autoriser des mosquées? Pourquoi ne pas exiger l'assimilation complète et totale des musulmans? Ça paraîtrait scandaleux aujourd'hui, voyez, dans le prêt-à-penser, alors que c'est exactement ce qui se passe dans nombre de pays musulmans où il y a interdiction totale de ce qu'on appelle ici, donc ce que l'on chante ici, l'altérité sous toutes ses formes. Eh bien, je pense que ce qui arrive, c'est que ce sont des personnes hors sciences humaines et sociales qui arrivent avec des interrogations beaucoup plus fondamentales, c'est le cas de le dire, beaucoup plus radicales, où on parle de remplacement de population, de la nécessité de refuser des revendications qui sont totalement contraires à nos propres valeurs. Donc, ce que je veux dire en deux mots, c'est que c'est comme, si vous voulez, avec le monde journalistique, où vous avez très peu de gens d'une grande dimension, d'une grande ampleur, c'est souvent simplement un réflexe critique, dit critique, en fait provocateur, et c'est cela que les médias adorent. Donc, il me semble urgent qu'il y ait d'autres approches en sciences humaines et sociales, au risque de les ramener à de simples visions destructrices, déconstructivistes, vous voyez, comme l'on dit. Et il faudrait se poser cette question, quelle est réellement la place, l'apport aujourd'hui des sciences humaines et sociales quand on voit que les problèmes les plus délicats, les plus difficiles, évidemment, c'est prendre un risque d'être traité de tous les noms si on aborde les problèmes de fond, mais je pense qu'on a là le défi le plus grand pour les sciences humaines et sociales, sinon ce sera les écrivains, des gens très cultivés, voire des gens qui n'ont, si vous voulez, jamais pratiqué ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines et sociales, très spécialisés dans certains domaines. Il en va de même des problèmes comme les prisons, l'insécurité. Il y a, on sait, des expériences où on ne met pas les gens dans des prisons 5 étoiles, mais où on met sur pied de véritables bagnes. Eh bien voilà, vous imaginez le scandale. Eh bien non, je pense qu'une société, si elle veut survivre, doit réellement reprendre conscience du fait qu'elle doit défendre de manière totale, absolue, ses valeurs fondamentales. Sinon, eh bien, par exemple, les sciences humaines seront ramenées à de simples discours idéologiques, souvent destructeurs, prometteurs d'avenir radieux que l'on sait maintenant, qui aboutissent très souvent à des catastrophes destructrices et meurtrières.
Donc vous appelez en fin de compte à un retour au réel, tout simplement.
Tout simplement, vous dites l'essentiel, c'est qu'on a effectivement l'impression qu'une grande partie de ces personnes, avec leur discours délirant, sont contrairement hors réel, hors sol, alors que leur rôle serait justement d'analyser de manière plus fondamentale ces réalités sociales. Et c'est bien sûr aussi un appel aux médias pour qu'ils donnent la parole davantage à des études approfondies qui réellement traitent les problèmes de manière fondamentale, alors que ceux-là sont écartés parce que trop compliqués. C'est malheureusement la provocation qui intéresse les médias, mais avec quelle image aussi à ce moment-là des médias, il ne faut pas s'étonner si eux aussi sont très sévèrement critiqués, voire détestés, des mouvements de révolte anti-médias, de même que anti-théories délirantes des sciences humaines et sociales, sont à coup sûr à prévoir.
Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Wendisch.
Merci à vous.